16h07, d'habitude, c'est Denis Grevel qui est à la barre de l'émission. Pas cette semaine, il est en relâche. On espère qu'il en profite bien. Véro, Audrey, Max qui sont là et se joint à nous. Jeff Fortin, mais avant de parler à Jeff et de parler de ce que la Ville de Québec a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui comme modification pour la circulation du Vieux-Québec au courant de l'été, on n'a pas le choix de retourner dans la circulation, Audrey.
Peut-être commencer par un gros accident sur la Capitale-Ouest à la hauteur de la première avenue, voie de gauche et voie du centre qui sont bloquées en ce moment. Les services d'urgence sont là également, ça crée quand même pas mal de troubles. Henri IV Sud à la hauteur de Quatre-Bourgeois, il y a un véhicule à panne dans la voie de gauche qui crée également des problèmes. Si on retourne sur la capitale, direction Est, il y a des répercussions aussi là, dû à l'accident en sens inverse. Là, entre Henri IV et Laurentienne, c'est super difficile de circuler en ce moment. Robert Bourassa-Nord, entre Charest et la capitale, quelques ralentissements à prévoir. Si vous êtes sur Charest-Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, là, c'est assez complexe aussi. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction Sud, assez difficile. La congestion commence à la hauteur de Charest si vous êtes sur Henri IV Sud, à peu près à la hauteur de Chemin Sainte-Foy si vous êtes sur Duplessis. Et sur la rive Sud, la 20 Ouest, entre Chemin des îles et Taniata, commence à y avoir quelques ralentissements aussi. Quoi que ce soit, 88-971-1021.
Jeff Fortin, bonjour!
Bonjour!
T'es allé faire ton tour du côté d'un point de presse de la Ville aujourd'hui où on nous présentait en fait les changements qu'on va amener pour l'été 2024 à la circulation dans le Vieux-Québec, là, les fameuses mesures d'atténuation de la circulation. C'est le même qu'on appelle ça.
En plein ça, je vais te résumer ça en zone piétonne, hein, si je peux te
c'est
permettre.
C'est carrément ça, hein?
Oh, ouais, c'est carrément ça avec quelques endroits de stationnement là, qui sont retirés. Dans le fond, l'an passé, on avait fait un projet pilote dans le quartier latin, autour de la rue Couillard, au nord de la côte de la Fabrique, avec une zone piétonne qui était gérée aussi par des agents de sécurité, souvenez-vous, zone piétonne entre 11h le matin et minuit. Puis là, ben, il y a seulement les citoyens qui peuvent circuler.
C'était essentiellement dans des quartiers un peu plus résidentiels qu'on
Exactement.
Faisait ça. Là. Puis, tu sais, c'est des... En fait, on le faisait pour éviter que les gens se servent de ces rues-là comme raccourci pour éviter les artères qui étaient un peu plus achalandées.
Tout compris. Et alors, on faisait ça vraiment pour la qualité de vie des citoyens. Mais là, on va ajouter une zone piétonne au sud de la rue Saint-Louis, donc qui va servir également aux commerçants pour pouvoir faire des terrasses, faire de l'animation extérieure, donc attirer les gens vers leur commerce. Et c'est le même principe qu'on va faire parce qu'on va retirer des voies de stationnement sur la rue Buade, la rue des Jardins et la côte de la Fabrique pour justement permettre aux commerçants s'installer des terrasses, on va installer des bacs à fleurs, tout ça. Donc, on va dynamiser le Vieux-Québec, autrement dit.
Donc, là, les changements ont été présentés aujourd'hui. On va débuter ça quoi? C'est pendant la période de la Saint-Jean, à peu près?
En plein ça, c'est du 26 juin au 23 août, entre 11h et minuit. Donc, cette année, au lieu d'être des agents de sécurité pour les rues résidentielles, ça sera des barrières avec carte magnétique. Donc, chaque résident va avoir sa carte magnétique. Il y a vraiment quatre grands objectifs derrière ce projet-là. C'est de recréer un commerce de proximité, donc de faire en sorte que les citoyens se réapproprient leur commerce du secteur du Vieux-Québec. Donc, c'est pour ça qu'on leur permet justement de sortir puis de montrer c'est quoi leur couleur.
Il faut dire qu'il y a plusieurs enjeux dans ce secteur-là. D'abord, il y a de moins en moins de citoyens qui vont vivre là. Puis, il y a plusieurs éléments qui le font. Tu sais, ça coûte excessivement cher aller rester dans le Vieux-Québec. Si, mettons, vous décidez d'être locataire, ça va vous coûter cher. Si vous décidez de devenir propriétaire, déjà, en partant, ça va coûter cher, mais ensuite de ça, il y a les coûts de rénovation qui viennent avec ça. Puis tu parlais des commerces de proximité. L'autre élément qui est souvent soulevé par la population, soit qui est déjà résidente ou qui aspirerait à devenir résidente intramuros, si on veut, là, entre les murs, dans vraiment la portion du Vieux-Québec, c'est le manque de commerce. Mettons, tu veux aller faire l'épicerie, tu veux aller dans un dépanneur, c'est très, très limité, le choix que tu as. Les commerçants qui avaient été là à un certain moment donné, pour eux, c'était plus rentable, ça coûtait excessivement cher
en taxes
aussi, fait qu'ils avaient fini par quitter. Mais là, tu sais, on prend des commerçants qui sont déjà là, des terrasses qui sont souvent beaucoup plus occupées par les touristes que par les résidents. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut améliorer cette proximité-là de commerce.
Oui, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on va voir avec ce projet pilote-là. On parle beaucoup de qualité de vie aussi à améliorer avec moins de bruit, moins de circulation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2006, c'est 669 citoyens de moins que le Vieux-Québec compte.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque parce que le Vieux-Québec, présentement, est à peu près à 4200 citoyens. Puis l'objectif, il y avait eu un objectif de 5000 de fixer par Régis Labombe à peu près au milieu des années 2010, mais on n'est pas là. Fait que c'est pour ça que l'administration Marchand tente de prendre les moyens pour ramener des citoyens.
Pis c'est drôle parce que, c'est pas drôle, là, mais de plus en plus, ceux qui sont déjà installés dans le secteur, eux rêvent d'un Vieux-Québec où il y a simplement pas de véhicules. Ouais. Mettons, les autobus vont aller dropper les touristes ou les hôtels. Puis pour le reste, tu vas te stationner à l'extérieur, tu vas circuler à l'intérieur, que ce soit par navette ou encore à pied ou d'autres moyens de transport. Tantôt, quand on a commencé à parler de ça dans les nouvelles, il y a entre autres des gens de livraison qui ont levé le flag en disant « Mon Dieu, ça nous complique la vie ». Je comprends par contre que les heures, là, c'est pas étendu 24 heures
exactement,
sur 24.
Non, exactement. C'est de 11h à minuit. Donc, on veut justement faire en sorte que toutes les livraisons puissent se produire le matin. Donc, tu sais, on se pose beaucoup, on s'est beaucoup posé la question, les journalistes présents, parce qu'on s'est dit, il me semble que le premier projet, le projet pilote l'an passé, n'a pas été super bien. Donc, pourquoi on vient agrandir ça? Mais pour Bruno Marchand, c'est simple, c'est qu'il faut absolument faire des actions pour ramener des citoyens dans le Vieux-Québec. On l'écoute.
Les gens pourront dire que c'est audacieux. Nous, notre objectif, c'est de répondre à ce que je vous ai dit. Le statu quo n'est pas possible. Le statu quo actuellement ne nous amène pas dans une situation où on dit c'est pas grave si on, pendant 10 ans on bouge pas, on est à l'aise avec l'état actuel des choses. Les gens ne sont pas à l'aise. Les citoyens, en beaucoup plus grande proportion qu'un sur deux, nous émettent des critiques par rapport à leur qualité de vie dans le Vieux-Québec. Et ce que je vous ai dit au départ, là, on n'est pas les seuls à vivre ça. Alors on a le choix de se dire, puis on le voit, là, les villes, puis Québec en est une, où on a laissé les choses aller, la chose ne s'améliore pas, ça empire.
Et là, comment on va faire pour aller vers mieux? Est-ce qu'on a des modèles ailleurs qui ont bien fonctionné pour être capable de mettre ça en place? Parce que là, je comprends que c'est les citoyens actuels. Mais ça, là, ça va être d'en attirer d'autres. Là, je comprends qu'il y a certains projets de locatifs puis d'appartements plus abordables qui ont été annoncés. Là, mais on vise quoi? Puis on regarde qui, en fait?
Oui, exactement. Tu en as parlé, l'îlot Saint-Vincent, 125 logements. On a également, la ville a également acheté les terrains de l'ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague. Ouais. Également là, pour justement faire des projets de domicile là avec des logements abordables. Donc, on veut ramener les gens vers le Vieux-Québec. Le modèle qu'on se base, c'est vraiment le modèle Bruxelles. J'ai posé la question au maire Marchand. Alors, c'est le modèle Bruxelles. On va juste changer l'ordre, Audrey, des extraits, parce que justement, vu qu'on est là-dedans. Et dans le fond, Bruxelles, ce qu'ils font, c'est que tranquillement, pas vite, ils agrandissent leur rue piétonne, destinée aux piétons. Dans le cas de Bruxelles, c'est à l'année parce qu'il n'y a pas d'hiver, etc.
Oui, puis il y a une densité qui est différente de la nôtre.
Il y a une densité qui est très différente. J'ai fait mes recherches. Cette année, on ajoute encore 6 rues aux 15 qui étaient là. Fait que dans le vieux Bruxelles, qui est à peu près d'un 2 km carré, on est maintenant rendu à 40 % des rues. On écoute justement le maire Marchand là-dessus sur son inspiration.
Prenons Bruxelles, qui est un modèle intéressant. De Bruxelles, on a appris beaucoup de ce qu'ils ont fait et de comment ils l'ont fait. Alors, ça nous permet d'éviter des erreurs aussi. Hein? On n'apprend pas juste de ce qu'on fait dans nos phases, on apprend de ce que d'autres villes font. Et Mélissa et moi, Mélissa me remplace lorsque j'y suis pas sur la question de l'organisation des villes patrimoniales. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres villes. La Croatie nous a donné des exemples intéressants sur la question de la gestion d'autobus, Bruxelles sur la piétonisation, d'autres villes américaines sur des espaces. Mélissa a un excellent exemple de Philadelphie sur un espace communautaire commun bien intéressant duquel on s'inspire présentement.
Puis mine de rien, ça amène toujours la fameuse question. Toutes les fois, tu sais, c'est drôle parce que quand Bruno Marchand est arrivé cette semaine, quand le salon de l'auto est sorti, là, il a commencé avec ses fameux propos sur « c'est pas de faire des « ou », c'est de faire des « et », etc., etc. » Mais là, on arrive encore aujourd'hui avec une annonce qui peut laisser penser que la voiture aura de moins en moins sa place dans ce secteur-là.
En effet, mais Bruno Marchand s'est fait rassurant. Pour lui, il n'est pas question d'aller rapidement, d'y aller trop rapidement avec les rues piétonnes. Puis de complètement enlever la voiture, là, il y a bien conscience que les citoyens vont continuer avec une voiture.
Jamais on a dit qu'il n'y a pas d'auto qui va rentrer dans le Vieux-Québec. À terme, quand on sera rendu dans 3, 4, 5 ans, on verra la vitesse à laquelle on va, puis on va le faire avec les citoyens. Il y a encore des gens qui vont avoir besoin d'accéder au château Frontenac pour venir y être hébergés. Il y a encore des gens qui vont avoir besoin d'accéder au Bello pour venir prendre une bonne soirée avec des amis. Il y a encore des gens qui vont avoir besoin d'avoir la SAQ qui vient livrer leurs bouteilles pour pouvoir offrir à leurs clients ce qu'ils ont besoin. Ça va rester, ça. Il y a encore des citoyens qui vont avoir besoin de stationner leur voiture parce qu'ils en ont une ou ils en ont X. On va continuer de travailler ça. Mais on va continuer d'ajouter, en interaction avec les citoyens, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on améliore la qualité de vie et que ça devient vachement intéressant d'habiter là.
Mon inquiétude à travers tout ça, c'est qu'actuellement, dans la population à l'extérieur du Vieux-Québec, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ces mesures-là parce que, dans le fond, le Vieux-Québec, c'est la place où on va aller une fois de temps en temps. Puis on n'a pas l'intention. On va visiter le Vieux-Québec, puis on a comme plus l'espèce de sentiment que ça nous appartient, qu'on a le goût d'aller y dépenser, d'aller s'y promener, d'aller faire...
C'est compliqué à base. Que...
Ben, exactement ça. Mm-hmm. Fait que là, j'ai l'impression qu'on voit ces mesures-là, puis on est comme, ben continuez comme ça. On va continuer, nous autres, à aller à l'extérieur du Vieux-Québec.
T'as tellement raison. Moi, cette année, j'ai fait un geste personnel, puis c'est parce que je suis tanné d'aller dans un centre d'achat à Noël. Je suis toujours en retard dans mes cadeaux de Noël. Fait que le 24 décembre, je suis allé sur Saint-Jean acheter mes derniers cadeaux de Noël. C'était vraiment le fun.
J'ai trouvé courageux parce que dans ce secteur-là, tu avais en plus de ça le marché de Noël allemand, puis tu te rends en ville à ce moment-là. C'était vraiment compliqué. Mais tu sais, tu as des SDC qui sont des rues commerciales de Québec qui sont de plus en plus proactives parce que justement, ils savent que les gens s'en iront plus nécessairement dans le Vieux-Québec. Fait qu'eux tentent d'attirer l'attention. Puis... T'sais, on a souvent parlé de surtourisme aussi dans le Vieux-Québec, puis que le Vieux-Québec était carrément touristique. Lui, Bruno Marchand, il ne veut pas que ce soit un Vieux-Québec touristique.
Non, il veut vraiment un Vieux-Québec animé avec des citoyens. Puis écoutez bien l'image qu'il donne, je l'ai trouvé très drôle.
Pour nous, et ça, c'était quelque chose qu'on vous a dit dès le départ, il était question de prendre ça au sérieux et de poser des actions qui font en sorte qu'on renverse une tendance. On renverse une tendance. La tendance naturelle de devenir... un Walt Disney de carton, parce que c'est ça qui est arrivé dans d'autres villes, on la refuse. Et on la refuse profondément. Profondément pour la valeur du Vieux-Québec, pour sa valeur qu'il a ici à Québec, dans notre région et au Québec, pour la valeur qu'il a pour les citoyens, pour les femmes et les hommes qui y habitent, mais aussi pour ceux qui n'y habitent pas et qui viennent, évidemment, s'abreuver, se nourrir de cet espace extraordinaire historique, et pour les commerçants.
Je comprends. Il ne faut pas que ça devienne ce genre d'affaire-là. Puis il y a quelqu'un qui nous dit sur le texto, le Vieux, c'est un décor pour les touristes. Il ne faudrait pas que ce soit ça, mais il va falloir qu'on trouve des manières d'inciter les gens à s'y rendre, même si c'est rendu un petit peu plus difficile. T'sais, est-ce qu'on va finir par fonctionner avec des navettes ou quoi que ce soit pour que, mettons, tu vis à Québec puis que le Vieux fasse aussi partie de ta ville?
Là? Je trouve ça le fun parce qu'il y a un texto qui est rentré puis je suis un peu de ce côté-là. Je suis ce qu'on peut considérer un pro-voiture, c'est ce qu'Alex nous dit. Puis en principe, je devrais m'indigner de ce genre de projet-là, mais je suis pas en désaccord, pas en tout, d'éliminer une bonne quantité d'auto dans le Vieux-Québec.
Je suis pas en désaccord avec lui. Par contre, il va falloir qu'on soit capable, dans nos déplacements, de faciliter les choses.
Clairement.
Puis que ça devienne pas juste une destination à touristes. Parce que là, ça va être, oui, les résidents, puis c'est plate, mais les commerçants se sont rendus compte dans le secteur, ils ne peuvent pas vivre uniquement avec les résidents puis avec les touristes. Ils ont besoin du reste de la ville de Québec. Comment on va faire pour s'assurer que les gens de Sainte-Foy, c'est pas si pire, les autobus vont bien, mais prenez toute la portion. Charlebourg, Beauport, Val-Bélair, il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Comment on fait pour s'assurer qu'eux soient capables de se rendre là-bas sans nécessairement avoir à prendre leur voiture, mais que les déplacements se fassent bien? Puis on en revient toujours à la même question. Tu sais, la mobilité à Québec, comment on fait pour que ce soit quelque chose de plus simple? Tu sais, que la personne qui, d'habitude, aurait pris son auto, serait allée se parquer à la place du ville, va faire « Hey, sais-tu quoi? Je vais y aller en transport en commun ou je vais y aller avec un parc au bus à tel endroit ou tel... » Tu sais, comment on va faire pour faciliter tout ça? J'ai l'impression que la ville n'est pas encore même rendue là dans sa réflexion.
Non, en effet. Puis il y a aussi une certaine gratuité qu'il faudra qu'il y ait dans la mobilité. Quand tu arrives dans le Vieux-Québec, il faut que tu prennes une navette, mais qu'elle coûte 3$, ben, tu vas dire, je vais aller me stationner au centre commercial, puis je vais rentrer dans le centre commercial gratuit. T'sais. Fait que il y a tout ça à penser, évidemment. Puis ça, Bruno Marchand, ça ne l'est pas caché que... il aimerait ça faire les deux en même temps, mais là, évidemment, on ne veut pas revenir sur le dossier de la mobilité à Québec puis de tout le système de transport structurel. Là. Mais en effet, il faudrait que tout ça soit fait de pair. Là.
Le point de vue des commerçants du secteur, est-ce que ça fait leur affaire? Est-ce que ça fonctionne bien pour eux que ce projet-là soit élargi?
Les commerçants étaient très heureux, les commerçants qui étaient sur place, notamment Laval Tremblay, qui est le propriétaire de Paulina Pizzeria sur la rue Saint-Louis. Il nous explique que l'an passé, ça a même augmenté son chiffre d'affaires.
Absolument, absolument. Je trouve que par rapport à ce qu'on a vécu l'été passé, le client a beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, j'ai vu même une augmentation de mon chiffre d'affaires. Ça fait une belle rue. Il reste encore des choses à travailler pour les fleurs, plein de choses comme l'an passé, le projet commençait. Comme M. le maire a dit, on a fait une première saison. La deuxième saison, on devrait s'améliorer et continuer comme ça. Il faut être ouvert d'esprit un peu. Il faut comme s'ouvrir et vouloir l'avancement.
Il mentionne s'améliorer, puis j'en parlais un peu plus tôt quand j'ai vu les images des maquettes l'année passée, entre autres sur la rue Saint-Louis, on avait mis des bacs à fleurs, mais l'espace était tellement grand entre les bacs à fleurs, qu'il y en a qui pensaient que c'était des espaces de stationnement. Fait qu'ils allaient installer leur voiture là. Là, il y a des espèces de poteaux qui vont être ajoutés entre chacun des bacs pour éviter que ça arrive. Là. Mais disons que ça avait donné lieu à de drôles de situations. Là, il y a les fameuses barrières avec les cartes magnétiques. Là. Ça va ressembler à quoi? Est-ce que ça va être quelque chose qui va bien se gérer? À Québec, quand on a fait des choix de barrières magnétiques, ça n'a pas super bien été, entre autres, pour les
gérer. Se rappelle-tu
d'Exposité? Le stationnement d'Exposité est probablement le meilleur exemple.
Bien, ça va être un peu boboche. Ça, le maire Marchand l'avoue. C'est que ça va être des barrières, mais on devra les installer et les désinstaller à chaque jour.
Quoi?
Fait qu'à chaque jour, il y a des cols bleus qui vont arriver avec leur petit cring, 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 cring. Puis là, ils vont enlever la barrière à minuit. Puis ils vont venir cring, 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 le remettre à 11 h le matin. Oui, c'est ça. On voulait mettre des bollards qui sont rétroactifs.
Oui, rétractable. Comme on peut voir maintenant à New York, que ça, entre autres.
Exactement. Mais on parle qu'avec les conditions hivernales, c'était pas possible de les installer. Oui, on a un hiver, même si ça paraît pas. Alors, on écoute Bruno Marchand là-dessus.
L'idéal, je vais être franc avec vous, ça serait des bollards rétractables. Encore, ça serait encore plus beau. Mais présentement, on n'a pas trouvé la technologie qui nous permet de passer l'hiver, qui nous permet d'avoir quelque chose qui est efficace pour l'investissement qu'on a à y mettre. Fait que présentement, on y va avec une solution qui est intéressante. Puis si dans le temps, il se développe de nouvelles innovations technologiques, on verra ce qu'on est capable de faire. Mais ça prenait quelque chose comme ça.
Fait que c'est le point très faible du projet, les barrières.
J'imagine qu'il y avait d'autres sujets qui ont été abordés après ça, en espèce de moment de question, là, parce que je sais que ce matin, je vous entendais parler de la Maison de la littérature où il y avait des investissements importants qui étaient à faire.
Oui, clairement. Là. Bruno Marchand m'a dit que c'était dû justement à des délais normaux, de manque de main-d'œuvre, entrepreneurs, etc. Quand je lui pose la question s'il y a du laxisme, parce que c'est quand même 3 millions qu'on va devoir débourser, puis normalement, on a des inspecteurs en bâtiment à la Ville de Québec. Sa réponse était pas mal floue, fait que je pense qu'il va aller faire quelques vérifications
quelques devoirs,
là-dessus, quelques devoirs. Olivier Lemieux de Radio-Can, il a parlé de la zone économique métropolitaine en disant « Êtes-vous satisfait? » Il n'est pas satisfait de la première année, il souhaite beaucoup plus d'action pour la deuxième année. On a aussi parlé sur la rue, voyons, j'ai oublié le nom de la rue, mais les meubles là, qu'on a lus dans Le Soleil aujourd'hui, là, que il y a des augmentations de loyers très grands, jusqu'à 125 $ par mois.
Dans le Vieux-Québec?
Oui, dans le Vieux-Québec. Donc, en effet, il reconnaît que ce n'est pas une situation normale. Il invite les citoyens à aller justement faire valoir leurs droits auprès du tribunal administratif des loyers. Donc,
Dans le secteur
Saint-Ursule.
Saint-Ursule, et voilà, je cherchais le nom de la rue. Merci puis également, il a mentionné qu'il allait s'entretenir avec le propriétaire pour connaître davantage c'était quoi ses visées puis ses besoins là-dessus. Puis il a rappelé justement pour tous les propriétaires qu'il y a des subventions disponibles à la ville qui peuvent aller jusqu'à 125 000 $ pour des projets de rénovation de bâtiments dans le Vieux-Québec, donc pour justement faire en sorte qu'on va venir amoindrir le coût sur les locataires.
Est-ce qu'il est content que la paix soit revenue à l'Hôtel de Ville? Est-ce qu'il considère que la paix est revenue à l'Hôtel de Ville?
Ben, il reste encore avec Québec d'abord à régler quelques petits trucs, mais honnêtement, là, ça avait l'air d'une journée bien tranquille à l'Hôtel de Ville aujourd'hui, donc je pense que les esprits ont fini de s'échauffer.
On va exploiter ta présence en studio, mais juste avant, on va faire de la circulation. Je veux qu'on parle d'échange de hockey, puisque je veux qu'on fasse une mise à jour pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de l'émission, mais Audrey, c'est compliqué.
Oui, c'est assez compliqué, merci. Oui, c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau sur les routes. Peut-être commencer avec Dufresne-Montmorency-Ouest à la hauteur de Charest, la voie de droite qui est bloquée pour une panne de ce côté-là. Un suivi quant à l'accident sur la Capitale-Ouest aussi à la hauteur de la 1ère Avenue, la voie de gauche qui est bloquée, donc la voie du centre, là, ça recommence à rouler tranquillement pas vite. Les services d'urgence qui sont encore sur place au moment où on se parle. Puis ça paraît pas mal, là. Tu sais, en ce moment, mettons, là, Capitale direction Ouest, entre Seigneurial dans le coin de Beauport et Laurentienne, c'est bordélique, là, c'est pas possible. Puis on recevait des textos tantôt pour nous dire que les gens sont pognés dedans en ce moment, puis loin de s'en sortir. Capitale, direction Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne surtout. Robert Bourassa-Nord, c'est pas plus facile entre Charest et la Capitale, de bons ralentissements à prévoir. Si vous êtes sur Henri IV Sud, la congestion commence à la hauteur de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pareil pour ce qui est du Plessis Sud, là, il commence à y avoir des problèmes à peu près à la hauteur de Quatre-Bourgeois jusqu'à l'entrée du pont. La 20 Ouest, entre la route du président Kennedy et Tania. Il y a quelques problèmes aussi. Ça fait pas mal le tour des grandes artères. S'il y a quoi que ce soit d'autre, là, vous n'hésitez pas. 88-971-1021 par texto.
Si on regarde ce qui se passe côté Ligue nationale de hockey, dans un peu moins de 24 heures, ça va être, on va avoir atteint la date limite des échanges. Aujourd'hui, c'est probablement la journée de la semaine où ça a le plus bougé, Max. Hein?
En fait, hier était une plus grosse journée, des gros morceaux qui sont partis. Puis aujourd'hui,
c'est en nombre.
C'est plus du patchage de trous un petit peu. peut là, peut-être faire un récapitulatif, puis après, on reviendra sur ce qui retient le plus notre attention. Ça a commencé avec les Maple Leafs de Toronto qui ont fait l'acquisition du défenseur des Capitals de Washington, ancien du Canadien Joel Edmundson, pour des choix de 3 et 5e ronde. Le Québécois Anthony Beauvillier qui est passé des Hawks de Chicago aux Prédateurs de Nashville en retour d'un choix de 5e ronde. Le Canadien de Montréal qui a envoyé l'espoir tchèque Jan Michak aux Ducks d'Anaheim en retour de l'attaquant Jacob Perreault. Les Oilers d'Edmonton qui ont acquis le défenseur Troy Stetcher et un choix de 7e ronde en 2024 en retour d'un choix de 4e ronde en 2027. Le Wild du Minnesota qui a reçu un choix de 3e ronde en 2026 en envoyant à l'Avalanche du Colorado qui n'a pas fini son magasinage le fougueux attaquant Brandon Duhem.
Fait que l'Avalanche est en train de se pacter un club encore plus. Hein?
Et la dernière transaction, encore l'Avalanche du Colorado, l'ancien des Olympiques de Gatineau dans la LHGMQ, Yakov Trenin, qui s'en va au Colorado en compagnie de l'espoir Graham Sward. Du côté de Nashville, on reçoit l'espoir Jeremy Hensel et un choix de 3e ronde en 2025. Donc, ça a beaucoup bougé, mais on voit que c'était des choix de 3, 4e, 5e ronde. C'est vraiment plus du patchage de trous de gars de 3, 4e trio, des petits espoirs, un 7e défenseur du côté des Oilers. Joel Edmundson qui devrait jouer sur un 3e duo à Toronto. Et là, on est en l'attente là, d'avoir des détails sur Jake Gensel qui risque de changer d'adresse d'ici 24 heures.
Est-ce que c'est celui-là que tu crois qu'il s'en va du côté des Hurricanes vu qu'ils ont placé plusieurs personnes au ballottage?
Est-ce que ce sera Jake Gensel ou un autre? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que tu places pas trois gars qui font quand même un salaire de Ligue nationale au ballottage en n'ayant pas l'intention d'aller chercher un contrat quelque part. L'affaire, c'est que les Hurricanes n'ont pas nécessairement l'habitude de payer un gros prix pour un joueur de location qui va te donner une fin de saison puis des séries avant de partir ailleurs sur le marché des agents libres. Fait que de ce qu'on comprend, les Pingouins veulent vraiment aller chercher beaucoup pour Jake Gensel, puis avec raison. Fait que je suis pas sûr que les Canes s'en vont vers lui. Il y a d'autres attaquants qui sont disponibles. T'sais, ça va-tu être un Jordan Eberle dont on a commencé à parler plus, à plus bas prix? Il en reste quelques-uns dispo qui coûteraient moins cher que Jake Gensel, mais c'est sûr que les Canes vont bouger. Les Oilers risquent de bouger encore. On s'attend à ce que les Golden Knights bougent encore après l'acquisition de l'attaquant Anthony Manta, mais aussi hier soir du défenseur Noah Hennifin. Il y a encore du stock sur le marché.
D'ailleurs, le Canadien qui visite les Hurricanes ce soir, c'est à 19h. C'est qui est le gardien partant ce soir?
C'est Samuel Montembeault qui sera devant le filet. Fait qu'est-ce qu'on repose Jake Allen ou du moins on veut pas qu'il se blesse parce qu'il y a des rumeurs qui circulent un peu pour Jake Allen, mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui sont nommées. C'est juste qu'à un moment donné, tu le sais que le Canadien pourra pas, en toute logique, finir l'année avec trois gardiens de but. Donc, on a quand même hâte de voir là, ce qui va se passer à ce niveau-là. Est-ce qu'on va finir par en mettre un au ballottage? J'ai hâte de voir.
D'ailleurs, demain, dans l'heure de 17h, on va parler à Pierre-Aude. Il nous a fait signe un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il est en nom de toute la journée de demain pour les transactions, entre autres. Fait qu'à ce moment-là, on pourra avoir son son de cloche de son côté. Merci beaucoup, Max. On va continuer à surveiller ce qui se passe de ce côté-là. Vous écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est 16h30. On s'arrête quelques instants et on revient. Gravel.